Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
la radio sauvage.
0.
Et le reptile.
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
Jeudi 21 mai 2026, il est 6h avant minuit. Vous écoutez l'émission d'information locale de Syllab. Merci à vous. Si vous êtes Rennais ou Rennaise, vous l'avez forcément déjà croisé dans la rue et entendu chanter accompagné de sa guitare des titres de Renaud, Edith Piaf ou Jacques Dutronc. Rodrigue Payès est chanteur de rue depuis 32 ans dans la capitale de la Bretagne et il en a gros. Depuis quelques jours, il milite dans la rue et sur Internet contre un nouvel arrêté municipal. Dans le viseur de la mairie, les artistes de rue, comme lui, signé le 4 mai dernier, il modifie la réglementation des prestations des saltimbanques dans le centre-ville. Leur prestation est maintenant limitée à une heure, avec interdiction de revenir dans la journée à une distance de moins de 200 mètres de leur localisation précédente. Un scandale pour le chanteur qui a lancé une pétition. En s'adressant à Nathalie Appéré, la maire de Rennes, il déclare, je cite, « Il ne vous est peut-être pas non plus venu à l'esprit que, peut-être, que la population se renouvelle, que les mentalités changent, que l'individualisme se développe, que l'intolérance grandit et qu'il est difficile de ne pas y voir un parallélisme avec la montée du fascisme. » Si vous êtes de son avis, vous pouvez aller ajouter votre nom à la pétition. Sur change.org, il y a déjà plus de 3200 signatures. Tout de suite, le flash de Léonore.
Cuba sous la pression américaine. Le porte-avions américain Nimitz et son groupe aéronaval stationnent depuis hier autour de l'île. La démonstration de force devrait durer quelques jours d'après la presse américaine. Plus de doute, Donald Trump vise d'envahir l'île. Hier, il a annoncé, je cite, « Cuba sera la prochaine cible après l'opération militaire contre l'Iran ». Le même jour, le président américain a annoncé des poursuites contre le président cubain Raúl Castro. Lui est reproché la mort de 4 Américains en février 1996. Leurs avions avaient été abattus par des MiG cubains à l'époque où Raúl Castro était ministre de la Défense. La semaine dernière, le directeur de la CIA était à Cuba. Il était clair, les pourparlers ne seront pas définitivement ouverts. Un ex-agent secret de Moscou condamné à Vienne. Après 4 mois de procès, l'Autrichien Egisto Hoth est condamné à 4 ans et 1 mois de prison ferme. L'ancien agent des renseignements autrichiens est inculpé pour avoir fourni des informations sensibles à la Russie. Il a par exemple transmis des dossiers issus de bases de données européennes concernant des cibles qui intéressent la Russie. Les avocats du James Bond autrichien ont annoncé faire appel de cette peine qu'ils considèrent trop lourde. C'est une vidéo qui a beaucoup fait réagir, des militants et militantes de la flottille pour Gaza, agenouillés, tête vers le sol et mains liées. Elle a été publiée hier par le ministre d'extrême droite israélien Itamar Ben-Gvir sur X. Partie de la Turquie, les 430 membres de la flottille pour Gaza tentaient de rejoindre les territoires palestiniens en passant par les eaux internationales.
On y voit les membres de la flottille contraints de se mettre à terre par les forces de l'ordre. Le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir, sourire aux lèvres, se fait filmer à leur côté et brandit le drapeau israélien. Au-dessus de la vidéo, trois mots assortis d'un drapeau « Welcome to Israel ». Les réactions n'ont pas manqué de... n'ont pas tardé, y compris chez les dirigeants et dirigeantes politiques. La première ministre italienne, Giorgia Meloni, s'est exprimée sur X en qualifiant la situation d'inacceptable et dénonçant une vidéo qui porte atteinte à la dignité humaine. Elle demande la libération des citoyens et citoyennes italiens et italiennes de la flottille. L'Italie réclame également des sanctions européennes. Au ministre. La Turquie, dont sont partis la plupart des militants et militantes, dénonce quant à elle une mentalité barbare du gouvernement israélien. Istanbul a également annoncé avoir affrété 3 avions pour les rapatrier. De son côté, le ministre des Affaires étrangères français Jean-Noël Barrot a annoncé qu'il convoquerait l'ambassadeur face à ses agissements inadmissibles. Ce dernier était d'ailleurs au micro de France Info ce matin. Pour l'ambassadeur d'Israël Joshua Zarqa, je cite, « Traiter des prisonniers de cette manière est ridicule ». Il assure qu'après la vidéo, les militants et militantes ont été détenus dans de meilleures conditions. Selon les organisateurs de la flottille pour Gaza, 37 Français et Françaises étaient présents.
Et quelles ont été les réactions du gouvernement d'Israël?
Eh bien, le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Tsar, accuse son homologue de la sécurité nationale d'avoir sciemment nui à l'image du pays. « Vous n'êtes pas le visage d'Israël », écrit-il sur X. Mais ce n'est pas la première fois que Itamar Ben-Gvir suscite l'indignation et se veut provoquant. En mars dernier, avec un pimps en forme de nœud coulant, il ouvre une bouteille de champagne, l'occasion de ce test, célébrer l'adoption du Parlement israélien de la loi instaurant la peine de mort pour les terroristes. Dans les faits, la loi cible les Palestiniens reconnus coupables d'attaques ou d'attentats anti-israéliens. Il avait également menacé de raser un village palestinien si la justice internationale le visait d'un mandat d'arrêt. Et si Benjamin Netanyahou a estimé mercredi que les images n'étaient pas conformes avec les valeurs d'Israël, il ajoute dans un communiqué, je cite, « Israël a pleinement le droit d'empêcher de provocatrices flottilles de partisans terroristes du Hamas d'entrer dans nos eaux territoriales et d'atteindre Gaza. » Cet après-midi, Israël annonce avoir expulsé tous les membres de la flottille.
Mais Aïsa, qui sont les militants et militantes de la vidéo ?
Eh bien, il et elle ont été interceptés lundi au large de Chypre par la marine israélienne. Ces militants et militantes tentaient de briser le blocus, apporter de l'aide humanitaire et libérer la bande de Gaza en passant par les eaux internationales. C'est leur troisième tentative en un an. Et près de 50 bateaux composaient la flottille pour Gaza ce mois-ci. Il et elle étaient 430 de plusieurs nationalités, toutes et tous ont été placés en détention et conduits en Israël. C'est là que la vidéo virale a été tournée.
Merci beaucoup Aïsa. Malgré un cessez-le-feu en octobre 2025 et l'ouverture du blocus, la situation reste très tendue, notamment pour l'aide humanitaire dans les territoires palestiniens. La dernière flottille pour Gaza était partie en avril, sans succès, elle aussi. Trois ONG attaquent l'État pour sa gestion des PFAS. Hier, les associations Notre Affaire à Tous, Bloom et Génération Future, ainsi que 6 riverains de sites contaminés, ont déposé un recours devant le tribunal administratif de Paris. Ils accusent l'État de carence fautive. Dans un rapport consulté par Le Monde, les ONG reprochent au gouvernement une réaction tardive et insuffisante. En saisissant la justice, les ONG souhaitent que l'État cesse de rejeter les PFAS dans l'environnement et qu'il répare le préjudice écologique. L'action vise principalement le Premier ministre Sébastien Lecornu et la ministre de la Transition écologique Monique Barbu. La grande distribution malmenée par le rapport de la commission du Sénat. Menaces, relations commerciales brutales, pratiques prédatrices, déséquilibre structurel, le document dénonce les abus dans la grande distribution. Présidée par Anne-Catherine Loisier, sénatrice centriste, la commission d'enquête sénatoriale a été constituée le 10 décembre 2025. Après étude, les sénateurs et sénatrices considèrent qu'il existe un déséquilibre important dans les rapports de force entre l'agriculture, l'industrie et la grande distribution. Pour réduire les risques de fragilisation au sein de la chaîne, ils et elles conseillent de renforcer la législation, notamment sur les marges. Du soleil et un goût de plage demain à Rennes. Il devrait faire 30 degrés vendredi après-midi selon Météo France. La vague de chaleur provoquée par un anticyclone remontant d'Afrique du Nord pourrait emporter jusqu'ici des poussières de sable du Sahara. Alors si votre voiture prend une teinte jaunâtre, pas de panique, c'est seulement l'été qui s'annonce.
On va aux étangs d'Apigny ?
Presque. Mais avant, on va se diriger vers le café fleuriste qui va bientôt ouvrir en ville. Son nom, le café Lupin. Je sais pas si vous connaissez ce que c'est que le Lupin.
Lupin. non, explique-nous tout.
Alors, c'est une plante qui sert d'alternative au café. Armée d'un micro et de sa curiosité, Cess est allée se renseigner auprès d'Enora, la barista, et Marie, la fleuriste. Les deux sœurs sont à l'origine du projet.
Alors moi, du coup, c'est Enora. Et moi, c'est Marie. On va unir nos forces et nos passions respectives pour ouvrir une boutique à Rennes. Ça se fait beaucoup en ce moment, le côté café plus autre chose. Et café fleur, on s'est dit, ça va faire des miracles.
Votre boutique va s'appeler le café Lupin. Pourquoi ce nom ?
Le lupin, du coup, de base, c'est une fleur. Les graines de cette fleur peuvent être torréfiées pour en faire du café qui est, du coup, décaféiné. Ça regroupe nos deux passions. Donc, on s'est dit que c'était un bon nom à choisir. C'était le nom parfait pour l'enseigne et qui nous représentait bien toutes les deux.
Est-ce qu'il y a des enjeux à utiliser des alternatives au café comme le lupin ?
Le café, c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose de très écologique. Ça vient de super loin. Et puis, avec les raisons climatiques, ça peut être quelque chose qui peut être amené à être rare. Le lupin peut être d'origine française ou Allemagne, pour avoir des fournisseurs locaux. Et le lupin a un goût qu'on a aussi beaucoup apprécié. Il a un goût beaucoup plus gourmand en bouche, moins amer que peut avoir le café.
Le lupin sera servi en café, mais sera-t-il aussi présent en bouquet ?
C'est pas la fleur qu'on retrouve le plus chez les fleuristes, on essaiera lorsque c'est la saison d'en proposer. On essaiera d'avoir une démarche au moins pour... Au début, pour un tiers ou la moitié des fleurs, d'avoir une démarche aussi locale, parce que comme le café, les fleurs, parfois, ça peut venir de très loin, notamment les roses, d'Équateur et autres. Donc on va aussi essayer de pousser une démarche un peu locale de ce côté-là.
Vous avez ouvert une cagnotte sur Ulule.
Alors en lisant la description, on lit que cela vous permettrait de choisir vos propres fournisseurs de café et de torréfacteurs. C'est quelque chose que je ne savais pas avant de préparer cet entretien-là. Vous êtes dépendant des torréfacteurs et des fournisseurs de café vis-à-vis des machines?
On peut avoir la possibilité de soit louer la machine à café, soit l'acheter. Mais en la louant, on peut être dépendant du café que eux, ils veulent absolument proposer. Nous, on ne voulait pas être dépendant de ça. On voulait choisir notre propre café. Pourquoi pas changer de torréfacteur de temps en temps, changer de marque de café, etc.
Si vous êtes sensible à la démarche d'Enora et Marie pour proposer un lieu mêlant le parfum du café et celui des fleurs et qui se source auprès de fournisseurs locaux, vous pouvez soutenir leur rêve d'indépendance caféinée. Leur cagnotte Ulule pour les aider à acheter leur machine à café se clôture le 1er juin. Et si vous voulez les saluer et les encourager pendant leurs travaux, vous pouvez passer les voir au 46 bis, maille du Mitterrand. Pour savourer une tasse de lupin ou s'offrir un bouquet, il faudra attendre l'ouverture de la boutique en septembre. Même si c'est presque les vacances, Agora Pro vous propose de remettre vos méninges en marche. Les 26 et 27 mai, des conférences et des ateliers auront lieu autour du thème « Robustesse en formation des adultes ». C'est l'occasion d'échanger entre acteurs de la formation, de l'insertion et chercheurs. L'inscription est gratuite et l'événement se déroulera sur le campus de Villejean.
Un flash signé Léonore, merci à toi.
6h avant minuit. 6h avant minuit.
On a parlé alternative au café dans le journal, pourquoi pas le thé ? On en parle tout de suite avec Louise et son invité.
Bonjour à tous et à toutes. Ce soir,
salut.
Nous recevons... Salut. Ce soir, nous recevons dans le studio Canal. C'est... Oh là là.
Canal, oui, oui. Pourquoi pas.
C'est un lapsus par rapport à hier. Je recommence. Ce soir, nous recevons dans le studio Silab, Blaise Thiré, directeur de l'Institut Confucius de Bretagne. Il est vêtu d'un jean et d'une veste grise et porte une barbe et des lunettes. En 2018, un projet de jardin chinois au cœur du parc de Morpa est validé. Un projet soutenu par l'Institut Confucius de Bretagne, un institut qui promeut la culture chinoise dans la région Bretagne. C'est en 2024 qu'il ouvre et il porte cette année. Et voilà, qu'il ouvre ses portes. Et cette année, vous mettez vos stands et animations pour la 5e édition du Festival du Thé. Cette fête se déroulera au Gailleul le 24 et 25 mai. Donc pour commencer, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce Festival du Thé ?
Bonsoir. Ouais. Alors je corrige tout de suite parce que 2024, alors malheureusement, on est beaucoup plus vieux que ça.
Non, pour le parc.
Le parc de Morpa, oui. Le jardin chinois a inauguré officiellement, ok, en 2024, tout à fait. Et ben, la fête du thé, elle est née un petit peu avant, parce que le jardin chinois, il a fallu un peu de temps pour le construire. Et donc, on savait que ce jardin allait se construire. Et dans le jardin chinois, il y avait cette plantation de thé, qui était un des éléments du projet, qui a été voté au budget participatif. Hein, c'était la Fabrique citoyenne. Donc nous, on a aidé, évidemment, au montage. Mais voilà, donc on avait cette perspective de l'existence d'un jardin de thé, d'une part. Et puis, d'autre part, on avait aussi cette... expertise, enfin connaissance, puisque voilà, on a depuis 2008 la naissance de l'Institut Confucius, il y a à Rennes, il y a une maîtresse de cérémonie de thé, Zhou Guihua, qui est là, et qui m'avait proposé, voilà, ça doit être autour de 2020-2021, et qui m'a dit, mais on pourrait faire quelque chose autour du thé. Alors elle avait quelque chose en tête qui ressemble, enfin qui était une manifestation en Chine, de la manière dont ils peuvent présenter voilà, des dégustations de thé. Voilà, c'est Chahui, on appelle ça, c'est une réunion de thé. Alors, j'ai trouvé que l'idée était excellente, mais qu'il fallait évidemment un peu l'adapter ici au contexte local, et qu'en plus, c'était une super occasion pour faire vivre ce jardin chinois et faire connaître tout le projet qu'il y a autour du thé. Donc, c'est comme ça qu'est né le projet au départ.
Le projet, très bien. Et du coup, c'est qui a l'initiative de cet événement aujourd'hui ?
Alors, on était deux, en fait, à la création. Il y avait l'association Les Agités, qui était une association qui, justement, avait porté cette idée de jardin de thé au sein de ce projet de jardin chinois. Et puis l'Institut Confucius. Donc, on était deux. Bon, il s'est trouvé que Les Agités, pour des raisons afférente à la vie des associations parfois, cette année n'a pas pu s'engager comme elle l'a fait dans le passé. Donc là, on s'est retrouvé à piloter l'organisation de cette 5e édition tout seul. Mais bon, voilà, c'est vrai que c'est pas la même chose de créer un événement que de refaire un événement qui est déjà créé. Donc on sait maintenant à peu près comment se débrouiller. Donc voilà, on est plus en... Alors évidemment, on apporte des nouveautés, tout ça, mais c'est pas exactement la même chose. Donc la difficulté, elle est moins importante.
C'est la cinquième année, du coup, où vous organisez cet événement. Vous avez du coup commencé il y a 5 ans. Et c'est quoi maintenant la difficulté que vous découvrez et que vous n'avez pas du tout pensé au début quand vous avez créé cet événement?
Ce qui est dans le développement du projet, c'est vraiment d'abord de voir s'il y a un intérêt du public pour la manifestation. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de trouver un petit peu les participants, c'est-à-dire des exposants que ça intéresse. Enfin, il faut que ce soit un projet partagé. Nous, on est une association culturelle, on n'est pas des organisateurs de salons commerciaux. C'est pas du tout ça. Donc, il fallait trouver le bon format, les bons participants, être validé l'intérêt du public, aussi des partenaires indispensables comme la ville de Rennes, évidemment, parce qu'on est dans un espace de la ville de Rennes, c'est un jardin public. Donc il faut que ça marche. S'ils ne sont pas pour et qu'ils ne veulent pas, c'est pas possible. Et non seulement ça, mais on a besoin de leur soutien logistique, matériel, enfin vraiment qu'ils accompagnent. Et donc là aussi, il y a besoin d'une validation, qu'ils soient convaincus de l'intérêt de la manifestation, que voyant l'intérêt du public, et puis voyant aussi qu'on réfléchit quand même à beaucoup de choses sur notamment la valorisation de toute cette filière émergente, voilà, d'inviter des gens. Vraiment, je dirais, à 90% des participants, ils sont dans un rayon de 200 km. Donc c'est quand même très local, quoi, même si on est évidemment dans l'international par ailleurs, puisqu'on parle de Chine, bien sûr, de Japon, on a une association nigérienne, marocaine, voilà. Donc on ouvre aussi, et c'est, je trouve que c'est ça qui est assez génial avec le thé, c'est que c'est quand même une boisson qui est très universelle. Donc voilà, c'est ça les étapes pour moi de construction. Je pense que l'année dernière, on est arrivé sur un format donc 2 jours. Ça, c'était l'année dernière, c'était la première édition sur 2 jours. Parce que c'est beaucoup d'énergie aussi pour nous, pour les participants. Donc c'est vrai que faire toute une installation pour 3-4 heures, on s'est dit, tiens, c'est un peu dommage finalement. Est-ce qu'on ne prendrait pas un peu plus de temps? Le temps du thé aussi. Le thé, c'est pas un café qu'on avale sur un comptoir en speed. Hein. Le thé, c'est on se pose, on boit du thé. Donc, il faut du temps pour ça. Le temps, c'est incompressible. Et du coup, ce format 2 jours, ça s'est stabilisé. Je pense qu'en nombre et en taille... Sauf à vraiment se dire, on est pas mal. Voilà, on a un format aussi qui est à peu près stabilisé. Il faut que ce soit confortable pour tout le monde, que tout le monde s'y retrouve aussi, que ce soit adapté au public qu'on attend. Donc voilà, je pense qu'on est sur un format à peu près stabilisé. Là.
Très bien. Moi, j'aimerais revenir sur le thé. Vous avez parlé de deux aspects qui est mis en avant, le fait que ce soit local, mais aussi le fait que ce soit ouvert sur le monde entier. Est-ce que vous pouvez aborder un petit peu plus cette question-là?
Je l'aborde d'autant plus facilement que moi, je suis amateur de thé, mais comme beaucoup de gens, mais pas forcément spécialiste. Le thé, c'est une plante chinoise, voilà, ça, on le sait. Elle a été un moteur des échanges commerciaux depuis très longtemps. C'est même un des premiers produits qui s'est échangé de manière aussi internationale, aussi ouverte. Elle était au cœur, et je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais ça a été même au cœur de toute la relation entre la Chine et l'Occident au XIXe siècle, qui a conduit aux guerres de l'opium, etc. Donc c'est un produit qui n'est pas du tout, qui est très vite sorti de sa région de naissance, et qui a été un produit internationalisé, un des premiers probablement, antérieur au café, certainement, mais un de ces premiers produits qui, mondialisé, est rentré dans des circuits de commerce internationaux. Donc, et ensuite, il a été implanté en Inde par les Anglais, qui en ont fait un produit de consommation de masse, dont la qualité n'était pas la première préoccupation. Et ça allait un petit peu à l'envers de la tradition chinoise, qui était plutôt justement une tradition en fait qu'on peut très bien comprendre nous en français si on la compare au vin. Voilà, la Chine a une vision du thé comme nous on a une vision du vin. Donc c'est un terroir, des cultivars, hein, des voilà, des types de plantes, des méthodes de transformation qui... Non, alors, c'est pas parce que le raisin est rouge qui donne du vin rouge, hein, ou du vin blanc, voilà, on le sait. Bah, le thé, c'est pareil. C'est pas parce qu'il est vert ou noir qu'il va... c'est juste la transformation du thé qui va être différente. Donc, il y a une expertise en Chine qui est incroyable et qui s'est répandue plus ou moins dans le monde. Donc, en Inde, ils ont développé des techniques de culture et de transformation, mais au Japon, ils en ont fait aussi encore autre chose, et puis en Afrique, ils en ont fait autre chose, et puis etc. etc. Donc ça, cette dimension internationale, en fait, elle est vraiment ancienne dans la culture du thé, et elle s'est aussi développée dans les habitudes de consommation. Alors, si je vous demande c'est quoi le premier pays acheteur du thé chinois, je pense que vous n'allez pas forcément penser que c'est le Maroc. Voilà, et le Maroc, bah, on connaît tous le thé vert à la menthe. C'est du thé chinois. Hein. C'est un thé qui n'est pas consommé en Chine. Ce gunpowder, c'est un thé qui est uniquement un thé d'exportation. Et pourtant, ils en ont fait un produit qui est vraiment... Enfin, il n'y a pas plus marocain que le thé à la menthe, quoi. Donc, ce mélange des cultures est assez incroyable. Et alors, ce que j'ai découvert, surtout quand on a lancé la fête du thé, puisqu'il y avait ce projet de jardin, c'est qu'en fait, il y avait du thé qui poussait en Bretagne. Alors, c'est récent, hein, même si les premiers plants, ils sont un peu anciens, mais la culture aujourd'hui, on va dire qu'elle est... elle a 10 ans, quoi, à peu près 10-15 ans, les premières expérimentations, et ça s'est beaucoup développé depuis 5 ans. La plupart des théiculteurs qui seront présents, ils sont là, ils ont commencé entre à peu près il y a 5 ans leur activité.
Et du coup, en Bretagne, c'est quoi les zones où il y a du thé qui pousse? C'est quoi leur particularité?
Très bonne question. Comme le café, moi je pensais que le thé, ça pousse forcément dans des pays lointains, exotiques, tropicaux, etc. Mais pas du tout. D'abord, la Chine, c'est pas un pays tropical. Il y a des zones subtropicales, mais le thé, ça vient des contreforts de l'Himalaya. Donc c'est une plante, c'est un camélia. On connaît tous la fleur camélia. Bon, en fait, c'est de cette famille. Donc c'est des plantes qui supportent assez bien le froid. Pas des températures polaires, mais elles descendent, ça peut descendre jusqu'à moins 10, c'est pas un problème. Ce qu'elles détestent, c'est la sécheresse. Alors ça nous parle. Ce qu'elles aiment bien, c'est les nuages. Être dans la nébulosité, donc un ciel plutôt nuageux. Et puis de l'eau, mais pas trop. Donc finalement, c'est assez adapté à peu près toute la Bretagne. Voilà, peut-être pas des fonds de vallée, faut pas que ce soit trop humide, mais voilà, sinon ça peut pousser un peu partout en Bretagne.
On pourrait en faire pousser dans notre jardin, en fait.
Alors c'est vraiment une invitation que je vous fais. Hein. Moi-même, j'ai des petits plants sur mon balcon, voilà. Vous venez à la fête du thé, vous pouvez acheter des petits plants qui sont des cultivars adaptés déjà locaux, et puis vous lancez votre propre production.
Il y a un type de thé qu'on produit en Bretagne particulièrement ?
Alors, il y a beaucoup de producteurs qui sont, pas beaucoup, hein, voilà, tout est modeste, mais qui se sont spécialisés, il y a quelques producteurs qui sont spécialisés sur les thés Wulong, donc on dit aussi thé bleu-vert, voilà, c'est des thés semi-oxydés. Donc c'est un procédé de transformation, voilà, qui est un petit peu élaboré. Le plus simple, c'est le thé vert, puis après il y a différents, le plus compliqué ce sera le thé blanc. Donc il y a un peu de tout qui se fait, mais je note une spécialisation dans le Wulong, qui est à relever.
Et ces producteurs qui se sont installés il y a 10 ans à peu près, ils sont confrontés à quoi comme difficulté en Bretagne?
La principale difficulté, c'est trouver un équilibre économique. En fait, la vraie difficulté, c'est celle-ci, c'est avoir des volumes de production et qui soient suffisamment conséquents pour qu'ils puissent en vivre. Ça c'est la difficulté. C'est-à-dire aujourd'hui, ce qu'ils arrivent à produire, s'ils veulent vivre de ce travail, on arrive à des tarifs au kilo qui sont hors. C'est vraiment un produit de luxe, et donc évidemment, c'est une problématique.
Il y a environ combien de producteurs bretons actuellement ?
Je pense qu'on est je ne les connais pas tous, hein, loin de là, mais je dirais une vingtaine peut-être, entre 20 et 30. Il y a beaucoup de jeunes producteurs, beaucoup de jeunes plantations.
On va parler un petit peu de la programmation, du coup du festival. Il y a plein d'activités qui sont proposées. Pourquoi avoir voulu mettre beaucoup de propositions aussi différentes? Comment on retrouve de la danse, on retrouve des activités culturelles?
Alors, d'abord, l'univers du thé ouvre sur des pratiques culturelles assez diverses, et on a voulu en donner un petit échantillon. Après, de manière aussi tout à fait pratique, on a aussi envie que les gens puissent passer du temps Voilà, encore une fois, c'est vraiment se donner le temps du thé. Et donc, voilà, d'avoir différentes choses à faire. Pas simplement, tiens, je regarde le tour, je fais le tour des stands, mais je me pose, je peux boire un thé. Tiens, je peux faire pratiquer une activité artistique. Tiens, je peux regarder une exposition photo. Tiens, je peux aller écouter une conférence. Voilà, c'est aussi l'idée de venez, mais prenez votre temps. Voilà, il y a des choses à faire.
Super, merci beaucoup. Est-ce que vous avez un dernier mot pour les personnes qui nous écoutent autour de cette programmation, autour du festival qui va, enfin, festival, fête du thé qui arrive ce week-end, le dimanche et lundi prochain?
J'ai un dernier mot, je sais pas, moi, venez. Venez boire un thé. Ouais, voilà.
Venez boire un thé, venez passer un moment avec vous au festival du thé, du coup, qui aura lieu le 24 et 25 mai, qui est organisé par l'Institut Confucius en Bretagne. Et qui se trouve au parc de Morpa, à côté du jardin chinois. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur www.confucius-bretagne.org, mais aussi sur vos réseaux sociaux à @fête-du-thé sur Instagram. Merci beaucoup, Blestier, d'avoir pris le temps de venir ici et nous parler de la fête du thé. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à passer.
Merci. Merci.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01. À minuit, plus personne.
Bravo. 6h avant minuit.
C'est l'heure de la chronique sur la ligne de touche de Marilyn. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la prise de parole des footballeurs. Mais en France, dès qu'un joueur sort du terrain pour entrer dans le débat public, sa parole devient immédiatement politique.
Bienvenue sur la ligne de touche, la chronique au-delà des scores qui s'arrête sur ce que le sport dit du monde et sur ce que le monde fait au sport. Aujourd'hui, l'actualité nous rappelle une chose simple. En France, le football n'est jamais seulement du football, et il ne l'a jamais été. Je veux que vous en ayez la certitude à la fin de cette chronique que le football a toujours été politique. Quand Kylian Mbappé dit qu'un sportif ne peut pas se taire face au monde, c'est un peu comme une montre cassée qui indique la bonne heure de...
Je pense qu'on est, une génération qui peut faire la différence. Aujourd'hui, on voit très bien que les extrêmes sont aux portes du pouvoir, et... On a l'opportunité de choisir le futur de notre pays.
D'une, ce n'est pas la première fois qu'il le dit, donc je ne comprends pas l'étonnement autour de sa prise de parole. Et de deux, il n'a pas tort, encore une fois, même si le timing et le reflet dans le miroir est un peu floué.
Et c'est pour ça que j'appelle à tous les jeunes d'aller voter. Kylian Mbappé est contre les extrêmes, contre les idées qui divisent. J'ai envie d'être fier de porter ce maillot le 7. J'ai pas envie de représenter un pays qui correspond pas à mes valeurs, qui correspond pas à nos valeurs, parce que je pense et j'espère qu'on est tous dans le même cas.
Il y a des messages qui sont...
Contrairement à la prise de position, par exemple, de Aurélien Tchouaméni.
Je pense que c'est pas assez de dire qu'il faut aller voter, il faut aussi expliquer comment on en est arrivé là et la gravité de la situation.
Certes, il a eu cette position en 2024, mais il reste un être humain. Et en France, un citoyen comme les autres. C'est un discours que je tiens depuis l'âge de 12 ans et régulièrement sur mon compte Twitter, quitte à en devenir relou. Oui, les footballeurs peuvent parler, même si ça ne nous plaît pas. Par exemple, j'ai un gardien dans mon équipe qui a liké des posts du RN, Lucas Chevalier. Je ne l'apprécie pas, mais il a le droit de penser ce qu'il veut. Mais je l'apprécie quand même pas. Mbappé est presque un syndicaliste qui s'ignore. Oui, c'est un peu choquant ce que je dis. Mais un joueur capable de défier la Fédération Française de Football sur la question des droits d'image, le PSG sur un combat juridique individuel, ses prises de position restent encore marquées quand même par l'opportunité et la stratégie personnelle. Là où quelqu'un comme Eugène Jo Léa, dans un autre contexte, a véritablement incarné la figure du joueur syndicaliste engagé pour l'ensemble de la profession. Pour Mbappé, la vraie suite serait peut-être de cesser d'être l'exception qui gagne sa bataille seule et de pleinement assumer ce rôle collectif que un de ses compatriotes a déjà esquissé. Je parlerai aujourd'hui du cas du football masculin dans cette chronique. Car les vedettes d'aujourd'hui n'ont pas suivi les traces de leurs aînés, tels que Juste Fontaine ou encore, comme je le disais, un certain Camerounais, Eugène Jo Léa, qui a eu l'idée de créer un syndicat en 1961 pour porter un combat en faveur des droits des joueurs, à l'époque où les présidents des clubs étaient tout-puissants. L'UNFP est né. J'ai une pensée également à ceux qui ont élargi mai 68 au football. Eh oui! On a souvent tendance à penser que les footballeurs sont apolitiques, qu'ils ne font que jouer, mais c'est l'état de l'industrie actuelle qui les pousse à être comme ça, ou bien aussi parce qu'ils sont souvent transfus de classe. Ils ont aussi eu leur mouvement de grève du 22 au 27 mai 68, deux mois après le déclenchement du mouvement étudiant. Pendant cinq jours, en mai 68 donc, des joueurs prennent d'assaut le siège de la Fédération française de football à l'appel du comité d'action des footballeurs, qui brandit une banderole simple, le football aux footballeurs, et une autre, la fédération, propriété des 60 000 footballeurs. Le siège de la Fédération française de football a été occupé par un groupe de joueurs contestataires, majoritairement d'après l'historien du football Alfred Wald, qui appartenait à des clubs amateurs de la région parisienne. Derrière ce geste un peu fou, il y a une vraie revendication politique et syndicale. Dénoncer le régime du contrat à vie, et dénoncer le fait que les joueurs soient traités comme des esclaves d'un club et réclamer un droit à la parole dans un système qu'ils n'ont pas construit. Ces épisodes peu connus montrent que le football français a toujours été traversé par des luttes sociales et que la grève des Bleus à Nice-Nah en 2010 n'est ni une première ni un scandale absolu, mais la réapparition d'un conflit bien plus ancien, celui des joueurs contre les structures qui contrôlent leur corps, leur image et leur parole. Quand des joueurs de l'équipe de France prennent position contre l'extrême droite, ou quand on reparle de Zidane, de Thuram ou de Nice-Nah, c'est toujours la même question qui revient. Que peut dire un footballeur et à quel prix? Déjà pour commencer, on va se mettre tous d'accord sur un point. Le football français n'est pas submergé par l'immigration comme le dit Zemmour. Mais l'immigration est la partenaire originelle de l'équipe de France, à partir de 1904, grâce à la loi de 1889, qui inscrit le droit du sol dans la législation. Cette information, je l'ai apprise en lisant le livre « Une histoire des Bleus en crampons » de François Darocha Carnero, qui nous apprend également que les premiers immigrés étaient surtout des immigrés belges ou encore italiens. Dans ce même livre, l'auteur pose une question que je me suis toujours posée. Au nom de quoi les footballeurs n'auraient pas eux aussi le droit de faire grève? Parce qu'en réalité, depuis 20 ans, on demande aux joueurs français à la fois d'être exemplaires et de rester à leur place. Exemplaires quand ils gagnent, silencieux quand ils pensent, dociles quand ils contestent. Et dès qu'ils sortent du cadre, le procès commence. C'est là qu'il faut revenir à Nice-Nah. En 2010, la grève des Bleus pendant la Coupe du Monde n'a pas seulement été traitée comme un conflit interne, elle a été transformée en affaire d'État, en crise morale et en honte nationale. Un petit rappel des faits. Le 20 juin 2010, les joueurs de l'équipe de France décident de ne pas s'entraîner pour protester contre l'exclusion de Nicolas Anelka. Mais c'est surtout la une de l'équipe du 19 juin 2010 attribuant à Anelka une insulte précise qui est fausse, transformant un conflit interne en grève symbolique en pleine Coupe du Monde en Afrique du Sud. Pourquoi? Parce que une partie du récit médiatique et politique avait déjà préparé le terrain, avec comme moment de bascule les manifestations de 2005 où les banlieues deviennent un problème d'ordre public, notamment avec l'affaire Ziad Ebouna et le discours sécuritaire de Sarkozy en fil rouge. Depuis, les stéréotypes sur les jeunes issus de l'immigration et venant de la banlieue, le football français servait donc de miroir aux angoisses françaises. Et dans ce cadre, les joueurs de 2010 ont été lus non comme des salariés en conflit, mais comme des corps suspects, des voix trop visibles, des enfants ingrats de la République. C'est là que la figure de Lilian Thuram est intéressante. Parce qu'avant même, Nice-Nah lui répondait déjà à Sarkozy, en rappelant que les jeunes des quartiers n'étaient pas des racailles, mais des citoyens à part entière. Et pourtant, quelques années plus tard, il condamnera la grève des Bleus au nom de la responsabilité morale du maillot. Cela dit, quelque chose de puissant, dans le football, la parole politique est toujours autorisée à condition de servir l'ordre établi. Alors la vraie question n'est peut-être pas les joueurs doivent-ils parler. La vraie question c'est qui accepte leur parole et quand. Quand elle conforte le récit national, elle devient exemplaire. Quand elle dérange, elle devient scandale. Et c'est peut-être ça, le vrai sens de Nice-Nah, de Thuram, de Mbappé et même de Zidane. Le football français est un champ politique à part entière, un espace où se rejouent les rapports de classe, de race, d'autorité et de représentation. Bref, un endroit où le monde s'invite dans le sport et où le sport renvoie au monde ses propres tensions.
Et à l'approche du mondial, une question s'impose. Est-ce qu'on regarde encore le football pour ce qu'il est ou pour tout ce qu'il révèle de nos peurs, de nos rapports de force et de nos contradictions? Marilyn y répondra dans la prochaine émission de J'irai cracher sur vos ondes, l'émission littéraire de Syllab, le lundi 25 mai prochain. Je crois qu'on a un message sur le répondeur. Clic.
Le téléphone.
Allô? Allô?
Syllab, la radio sauvage.
coucou à toute l'équipe de 6 heures avant minuit. Ben, j'espère que il y a des personnes qui sont peut-être en préparation, autres que la radio, ou peut-être d'autres personnes aux alentours qui vont au festival Art Rock à Saint-Brieuc ce week-end. Ça commence demain soir et là je viens de regarder la météo de ce week-end, et ben, il va faire beau et il va faire chaud. Donc voilà, je vais faire un tour moi à Lingéopétré. Couvrez-vous de crème solaire, hein, mettez-vous en Bermuda et tout. Et puis ben, voilà, profitez un peu de la programmation musicale qui est vraiment pas mal. Alors bien sûr, moi, un groupe que j'ai envie de voir, un groupe légendaire, hein, c'est le groupe De La Soul, donc un groupe hip-hop soul américain. Bien sûr, avec ses magnifiques tunes comme Ring 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 en 1991, donc il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'artiste préférée de ma mère qui est Véronique Sanson, donc ça sera la première fois que je la vois, alors que je voulais la voir plusieurs fois au Francofolie de La Rochelle, sauf que c'était pas le même jour. Et bah, bien sûr, hein, quelques têtes d'affiches du festival. Donc, j'ai pas tous les noms, mais bon, je pense qu'il y a une grosse programmation de prévu. Et en plus, c'est full complet. Donc voilà. Donc j'espère qu'il y a des auditrices et des auditeurs de Syllab qui vont au festival ce week-end. Eh ben, amusez-vous bien et vraiment, bah, j'espère que ça va être une édition un peu rock. Donc voilà. Allez, gros bisous à Louise, gros bisous à tout le monde. Et puis ben, j'espère vous voir la semaine prochaine. Donc voilà. Donc allez, gros bisous. Ciao.
Merci beaucoup, bisous Benoît.
Oui, et ne manquez pas, en parlant d'Art Rock, le plateau spécial, c'est Radioactif, c'est ça Timothée. Hein. Merci à Art Rock avec Fréquence Mutine, si je ne m'abuse, et quelques bénévoles de Syllab. Merci Benoît, laissez-nous un message vocal 02 30 96 25 35, on vous écoute. On diffuse tout ça à la fin de l'émission, avant de se quitter. 16-18, ah on t'entend pas Timothée, ah d'accord. Ah Timothée, je croyais que tu parlais à l'antenne. Timothée, du côté de la régie, essayez de vous dire que le plateau Art Rock, Fréquence Mutine et Radioactive avec les bénévoles de Syllab, c'est 16h, 18h, dimanche, c'est ça? Ce dimanche? Vendredi et dimanche, voilà, vous avez toutes les infos en direct de la régie. Je voulais vous dire aussi qu'il y a toujours un jeu concours en ligne pour gagner une place ou alors une affiche pour la première édition de Châteaubriant. Ça se passe au milieu des ruines du château des Desbazouges le samedi 6 juin prochain. Donc de 15h à 2h du matin, des concerts, de la pop, de l'électro, du karaoké, du thé dansant, des activités pour les enfants, bref, plein de trucs trop cool. Pour jouer et pour gagner, vous aurez besoin d'un mot de passe. Est-ce que vous vous rappelez du mot de passe autour de la table?
Fantôme.
Merci Léonore, c'est tout à fait ça. Ce soir à la technique, c'était Timour et Anna en duo. Merci vous deux, à lundi.
Merci.
Ah bah non, pas lundi, c'est férié, à mardi, dans 6h avant de nuit.
Exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, mais en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures.
Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6 heures avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.